La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
À cheval, un pied en tous les cas dans le 18e et l'autre dans le 19e siècle, c'est Ludwig van Beethoven. On a beaucoup évoqué déjà sa jeunesse avec vous, Cécile Pose, bonjour.
Bonjour.
Et un Beethoven aujourd'hui, eh bien, qui doit faire face au typhus.
Alors oui, à l'époque on appelle ça le typhus, mais la maladie, en fait, enfin le nom typhus englobe plusieurs maladies parce qu'on ne fait pas encore la distinction entre les symptômes, les pathologies, les problèmes anatomiques et une maladie précise. Donc le typhus, ça englobe plusieurs choses. Et puis alors nous, on espère évidemment que les laboratoires cherche activement un vaccin ou un traitement pour cette horrible Covid-19. À l'époque, eh bien, c'est les débuts des vaccins avec Jenner.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
On est face déjà à quelqu'un qui ose dire des choses qui n'ont pas encore été dites. D'ailleurs, Haydn lui dira « Mais mon cher garçon, vous me faites l'impression d'avoir plusieurs têtes. Toutes vos idées musicales sont magnifiques, mais en même temps, il faut pouvoir les dire avec un ordre particulier. Vous mettez trop d'humeur désordonnée dans votre musique. On a vraiment l'impression que, effectivement, tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a à jeter sur le papier est dit avec un fil conducteur, mais ce fil conducteur qui, finalement, on a l'impression que c'est le fond est tellement fort qu'il n'arrive pas à trouver dans la forme l'écrin particulier, et donc déjà, dès ses premières sonates, dès l'opus 2, on ressent bien sûr d'abord toute la joie, ce qui est assez, peut-être antinomique avec ce qu'on peut croire au départ, puisque souvent on a l'image vraiment d'un Beethoven qui est extrêmement colérique, à chaque fois qu'il y a un passage forté. Moi je me souviens, quand j'étais jeune pianiste, on nous dressait une liste de 20 interdits avant d'oser poser un doigt sur une touche. On était un peu tétanisé par ce buste sévère qui trônait dans les allées du conservatoire, et on nous disait cette sonate ne doit pas être jouée avant l'âge de 50 ans, alors tous les passages qui étaient un petit peu furieux, comme ça on les faisait avec beaucoup de sérieux. Or, c'est assez troublant de constater au fond que non, il y a des éclats de rire, il y a une joie contagieuse, et aussi bien sûr des éléments mélancoliques, nostalgiques, dès ses premières sonates. Rappelons quand même qu'il a à peu près 25 ans quand même, hein, lors de sa première sonate, écrite je crois en 95-96. Donc c'est véritablement l'homme Beethoven, et c'est en ça qu'il se démarque peut-être un petit peu de ses prédécesseurs, c'est que tout ce qui lui vient à l'esprit, ses sensations, ses idées, qu'elles soient conditionnées par son époque, par un contexte affectif, social, historique, ou qu'elles soient totalement inconditionnées, eh bien ça, il les couche véritablement sur le papier, et on a vraiment l'impression d'une trame qui est parfois presque illisible. Les premières sonates sont des sonates qui sont traitées avec une forme qui sont bien sûr issues de la tradition, mais on parle souvent de Beethoven qui fait éclater la forme. J'ai toujours eu le sentiment que c'était pas tant qu'il voulait absolument éclater la forme, mais encore une fois, ce qu'il a à dire est tellement puissant et vient de manière tellement intuitive, en laissant d'ailleurs une large place à l'improvisation et l'improvisateur qu'il était, que du coup, la forme est obligée de suivre. Il y a énormément de ratures, c'est quasiment illisible. Comme je disais, ces compositeurs-là, contrairement à des gens comme Mozart ou Chopin, où il y a très très peu de ratures, On a des partitions totalement illisibles. J'ai eu la grande joie d'être devant le manuscrit de sa sonata Passionata en allant à la Bibliothèque nationale de France, puisque ce manuscrit est à Paris. Et c'est extraordinaire de voir, d'abord c'est une émotion fantastique, bien entendu, mais aussi de voir vraiment, on a l'impression d'être à ses côtés, presque à son chevet, en train de le voir hésiter, douter, barrer, puis revenir finalement à ce qu'il avait dit la première fois, et c'est tout à fait passionnant.
S'il était resté longtemps assis à table et qu'il se sentait la tête échauffée, il avait toujours eu l'habitude de courir à sa toilette et de jeter des brocs d'eau sur sa tête en feu. Après s'être ainsi rafraîchi et ne s'être séché que rapidement, il se remettait au travail ou faisait une promenade au grand air. Ce qui prouve en quelle hâte il agissait afin de n'être pas distrait des élans de son imagination, au point qu'il négligeait de sécher convenablement ses cheveux absolument trempés. C'est que, souvent, l'eau dont il avait inondé sa tête sans s'y arrêter dégoulinait sur le plancher en telle quantité qu'elle y pénétrait et transperçait le plafond des locataires du dessous. Ce qui lui attirait des observations désagréables de ceux-ci, du concierge et finalement du propriétaire qui lui donnait congé. Gerhard von Breuning.
Alors, par rapport à 70 et le début du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de nouveauté.
Le spécialiste de l'hygiène et des pratiques corporelles, Georges Vigarello.
En revanche, il y a une dynamique très forte qui traverse les dernières décennies du siècle jusqu'au début du 19e. Quelle est cette dynamique? Par exemple, ce qui est majeur dans les villes, dans les grandes villes européennes, Londres, Paris, ce qui est majeur, c'est la question de l'eau. Ça, c'est absolument majeur. Bon. Et donc, le grand problème, c'est comment amener plus d'eau dans les villes. Et le changement, c'est vrai, entre la fin du 18e et le début du 19e siècle, c'est que la quantité et les pratiques vont effectivement se déplacer. Les pratiques, je pense à Paris, c'est amener de l'eau avec des canaux. Grande décision de Napoléon, créer le canal de l'Ourcq, qui n'arrivera d'ailleurs que dans les années 30 du 19e, mais qui est vraiment la tentative d'installer une immense saignée sur plusieurs kilomètres pour que la ville de Paris soit en quelque sorte abreuvée, comme elle ne l'avait jamais été jusque-là. Le deuxième repère, vous voyez, ce sont les grands flux. Premier repère, l'eau. Deuxième repère, l'air. Alors le grand problème de l'air, c'est par exemple découronner les ponts, de façon à ce que, sur les fleuves, l'air puisse circuler sans qu'il soit interrompu par ces grands bâtiments qui se trouvent sur les ponts, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Alors qu'évidemment, ça a créé une sorte d'obstacle, le fleuve devenant le lieu d'un courant d'air. Deuxième problème concernant l'air, élargir les rues. Troisième problème concernant l'air, absolument systématiquement. Chez Tissot, c'est une insistance constante, ouvrir les fenêtres. Voyez, et vous avez des rapports de médecins qui sont très parlants par rapport à notre période, où les médecins disent « on m'a appelé, je suis rentré dans le logement d'une dame qui était malade, l'air était irrespirable ». Donc il faut absolument qu'elle ouvre, il faut qu'on change les draps, etc. Vous voyez, il y a là quelque chose qui nous paraît extrêmement simple, mais qui déplace complètement les repères qui existaient auparavant. Et si je continue le raisonnement sur le déplacement entre la dernière décennie du 18e et le début du 19e, si je continue, le problème concernant l'eau, c'est pas seulement le fait de la porter, c'est le fait de la faire partir. Donc se pose de façon centrale la question des égouts. Comment arriver à faire fuir l'eau? Et là, il faut vraiment un investissement quasi-industriel qui permette de creuser cette fois, à l'intérieur même de la ville, de façon à ce que ça puisse partir. Alors, créer une sorte de flux qui permette à la ville de se transformer en véritable animal. L'eau arrive et l'eau part, vous voyez, ça bouge, ça vivifie. C'est très très important ce genre de problème. Alors, concernant la question de l'eau et concernant de l'air, il y a effectivement un problème central qui est lié à l'odeur. La menace n'est pas perçue sur le mode chimique comme nous pouvons le faire. La menace est perçue sur des indices sensibles. Et le premier indice sensible, c'est l'odeur nauséabonde. Et c'est l'odeur des marais, c'est l'odeur des eaux stagnantes. Et donc il y a une immense lutte pour éviter les eaux stagnantes. On supprime même, on dérive des rivières. Hein. Par exemple, la Bièvre à Paris a été explorée par un certain nombre d'hygiénistes avec la remarque qu'il y a des eaux stagnantes qui sont dangereuses, c'est l'odeur qui rend le dangereux. Et du coup, il y a des dérives, la bièvrerie recouverte, etc. Autre indice très important, les industries sont différenciées selon les odeurs qu'elles produisent. Voyez, et donc il y a une hiérarchie qui est pas complètement aberrante, mais qui est quand même surprenante par rapport à nos repères, parce que par exemple nous, les particules fines, nous les sentons pas, or elles sont extrêmement dangereuses. Cette vision n'existe absolument pas à la fin du 18e. Mais en revanche, c'est très important de voir qu'une exigence croît et qu'une exigence entraîne des pratiques qui deviennent progressivement différentes. Ça, c'est très important. Ça aboutit à des gestes qui ne sont plus les mêmes. La question de l'hygiène corporelle est évidemment différente, même si par certains côtés elle n'est pas totalement indépendante, mais elle est différente de l'hygiène publique. Or, c'est vrai qu'on peut considérer que la deuxième moitié du 18e est également une époque où les conseils portant sur l'hygiène intime, l'hygiène personnelle, l'hygiène corporelle, les conseils sont croissants et aboutissent, c'est vrai, à des comportements qui commencent à être différents, mais qui ne sont pas les nôtres. Alors, je m'explique. Effectivement, l'insistance est mise sur la nécessité de recourir à l'eau. Ce qui auparavant était plus compliqué, l'eau était considérée comme un peu inquiétante, un peu dangereuse. La relation à l'eau a toujours été une relation problématique, si vous voulez. Mais à partir du 18e et surtout de la deuxième moitié, les indications, il suffit de lire les hygiénistes pour le voir, les règlements, etc., même les lettres, les indications portent sur le recours à l'eau. Et un recours à l'eau qui n'est pas le nôtre. Il n'y a pas de baignoire, vous voyez, où les baignoires sont rares. On peut les compter dans Paris. Par exemple, les médecins n'ont pas de baignoire, par exemple. Mais l'insistance porte sur ce que j'appellerais personnellement les lavages partiels, c'est-à-dire laver les parties qui sont susceptibles précisément de provoquer des odeurs, les aisselles, les parties intimes, etc. Donc là, il y a quelque chose qui bouge, vous voyez. Et il y a des instruments nouveaux également. En particulier, moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus, même si ça paraît un objet particulièrement trivial, mais en particulier le bidet. Le bidet commence à exister dans les villes, en Angleterre d'abord, et ensuite en Europe, dans les années 30 du 18e, et puis il se répand, il passe de l'aristocratie à la bourgeoisie, et vous avez, quand vous lisez les archives de la fin du 18e, vous commencez à avoir des bidets dans des habitations que je qualifierais moi de petites bourgeoises, vous voyez, pas encore le populaire. Mais ça entraîne, on voit bien que, à partir de ce repère, l'hygiène intime et corporelle change.
Beethoven entame une tournée en Allemagne et il passe par Berlin. Durant ces temps troubles, les soldats sont présents dans la ville et ils se contaminent les uns les autres. De quoi ? Du typhus. En 1796, Beethoven rentre chez lui, à Vienne, et il ne se sent pas très bien. On raconte qu'il est rentré chez lui par une chaude journée d'été, qu'il était tout en sueur, que pour se rafraîchir, il s'est déshabillé jusqu'à la ceinture et qu'il s'est mis à la fenêtre, dans le courant d'air. Évidemment, il est tombé malade. Gravement même, d'après les témoignages, et pour certains, c'est cette maladie qui serait à l'origine de ses problèmes d'audition.
Une maladie d'entrailles de mon ami fut dès 1796 le principe de ses maux, de sa surdité et enfin de l'hydropysie qui causa sa mort. L'interruption trop fréquente d'un régime régulier a dû certainement rendre plus pernicieuse cette cause de souffrance. Franz Wegeler.
Cette maladie serait le typhus.
Alors, quand on parle du nom de certaines maladies avant le milieu du 19e siècle, il faut beaucoup se méfier parce qu'il y a des noms qui désignent en fait tout un groupe de maladies que depuis on a distinguées.
Le médecin et historien de la médecine, Roger Daché.
Mais qu'à l'époque, on confondait sous un même nom. Donc, à cette époque-là, ce qu'on appelle typhus, c'est un groupe de maladies infectieuses qui se caractérise par ce qu'on appelle des fièvres intestinales. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui évoluent sur un mode épidémique, qui déterminent un état extrêmement fébrile, avec des troubles digestifs très importants, des diarrhées, des vomissements plus ou moins importants, qui finissent par entraîner très souvent la mort des gens, pour deux raisons. D'abord, les conséquences d'une fièvre trop importante, mais aussi la déshydratation majeure entraînée par des vomissements ou des diarrhées trop marquées. Mais ça correspond à certaines maladies comme celle qu'on appelle le typhus exanthémateux aujourd'hui, qui est une maladie qui notamment sévissait dans les armées. Alors évidemment, elle se répandait dans les régiments en campagne parce que c'était un regroupement d'hommes qui étaient au contact les uns des autres. Alors dès que la maladie apparaissait dans ce groupe, en quelques jours, tout le régiment ou toute l'armée était contaminée. Mais ça peut aussi correspondre à une autre maladie qu'on a depuis lors démembrée, c'est-à-dire séparée du groupe de ce qu'on appelait les typhus au XVIIIe siècle, et qui est tout simplement la typhoïde. Mais la typhoïde n'a été vraiment individualisée qu'au milieu, au début, d'ailleurs peu après la mort de Beethoven, n'a été individualisée qu'au XIXe siècle. Donc en gros, ce sont des fièvres intestinales contre lesquelles on ne pouvait rien. Certaines d'entre elles étaient dues à des virus, d'autres étaient dues à des bactéries, mais de toute manière, on disposait d'aucun traitement anti-infectieux sérieux. Donc, on avait quand même bien compris que c'était des maladies contagieuses et qu'il fallait autant que possible isoler les malades. Mais c'était très difficile de les isoler si, par exemple, l'épidémie arrivait dans une armée. Et de toute manière, on attendait qu'il y ait suffisamment de morts. Parce qu'au fond, c'est comme ça que les épidémies s'arrêtaient. Quand on laisse évoluer une maladie épidémique sans intervenir, elle finit par s'arrêter, toute seule. Pourquoi ? Parce que tout le monde meurt. Et qu'à partir d'un moment, le nombre de personnes atteintes est trop faible pour pouvoir contaminer de nouvelles personnes. Et donc l'épidémie s'arrête. Mais on ne pouvait pratiquement rien contre ces maladies-là. La typhoïde est une maladie qui faisait donc partie au XVIIIe siècle encore de ce qu'on appelait les fièvres intestinales. Et elle n'a été individualisée comme une maladie bien précise avec un agent infectieux bien précis et unique que par un des grands médecins qui, au début du XIXe siècle, va fonder la médecine moderne et qui s'appelle Bretonneau et qui, lui, va étudier les patients qui sont atteints de typhoïde. Non seulement il va rassembler les éléments cliniques, c'est-à-dire des descriptions précises de la maladie, en montrant que, dans le cas de la typhoïde, les symptômes sont bien précis et différents de ceux d'autres fièvres intestinales. Donc, il commence à se dessiner une identité de la maladie, une identité clinique. Et puis surtout, il pratique, et ça c'est la grande découverte du XIXe siècle, grâce à deux grands médecins qui sont Bichat et Laennec, il va pratiquer l'autopsie de ses patients. Il va observer que lorsque les gens ont eu un certain nombre de symptômes bien précis, comme par hasard, on trouve à l'autopsie exactement le même type de lésion. Donc il fait un rapprochement entre le tableau clinique et les constatations anatomiques. C'est ce qu'on appelle la méthode anatomoclinique. Et c'est ça qui permet d'affirmer qu'il y a une maladie précise et non pas un groupe de maladies qui se ressemblent parce qu'il y a de la fièvre et de la diarrhée, alors qu'en réalité, sous ces deux symptômes, il y a quantité de maladies différentes. Et la première grande victoire, une des premières grandes victoires de la méthode anatomoclinique, c'est avec Bretonneau, qui individualise parmi les fièvres intestinales la typhoïde.
Courage ! Malgré toutes les défaillances du corps, mon génie doit triompher. Voilà mes 25 ans. Il faut que cette année révèle l'homme achevé. Il ne doit plus rien rester à faire. Beethoven.
Beethoven a contracté de nombreuses maladies dont certains de ses contemporains ne se relevaient pas. Il a donc aussi gardé une faiblesse des yeux parce que, petit, il avait eu la variole. S'il avait été épargné, il aurait peut-être pu se faire vacciner, puisqu'Edward Jenner invente le vaccin en 1796.
À la fin du XVIIIe siècle, il y a aussi des praticiens isolés qui vont faire des découvertes. Et simplement parce que le XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, c'est peut-être un moment où l'on développe une science de l'observation. Et on en a un très bon exemple avec Edward Jenner, qui est un médecin anglais, qui n'est pas un grand médecin de son temps. Il est tout à fait obscur, personne ne le connaît. Il a fait des études honnêtes de médecine, il est dans la campagne, il adore la campagne, il a refusé de s'installer en ville, et donc il est dans ses villages en Angleterre, et il est aimé de tout le monde, et c'est un bon médecin de campagne. Et il y a une maladie qui, effectivement, sévit de manière endémique en Europe, qui est la variole. Alors, la variole est une maladie qui, à l'époque, existe de manière, comme on dit, endémo-épidémique, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un peu, ça c'est endémique, et puis de temps en temps, ça s'affole et il y a des épidémies. Et c'est une maladie qui provoque l'apparition de pustules sur le corps avec toutes sortes de symptômes respiratoires et de la fièvre, ça ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que dans 10 à 20% des cas, on en meurt. Ce n'est pas une maladie mortelle à tous les coups, mais dans 10 à 20% des cas, on en meurt. Et quand on n'en meurt pas, on conserve toute sa vie sur le visage des cicatrices extrêmement marquées et très visibles qui, en quelque sorte, vous stigmatisent jusqu'à la fin de votre vie et on sait que vous avez eu la variole. Et c'est une maladie qui fait peur à toutes les mères de famille. Et Jenner, lui, dans sa campagne, il parle beaucoup avec les garçons vachés qui font partie de ses clients, qui s'occupent des vaches. Et il existe une maladie des vaches qui apparaît sur les mamelles des vaches qui donne des petites pustules pendant quelques jours, qui ressemblent d'ailleurs un peu aux pustules de la variole, et qu'on appelle la vaccine. Vaccine, parce que c'est une maladie des vaches. Et tout simplement, en parlant, en échangeant avec ces garçons vachés que naturellement les grands médecins des facultés ne vont jamais consulter, ce médecin des campagnes qui travaille avec eux, qui leur parle, qui les a vus grandir, qui les a fait naître, qui les a accouchés, il découvre quelque chose, une observation que tous ont fait. Jamais un garçon vaché n'attrape la variole. Et Jenner a cette idée un peu folle. Il se dit, mais au fond, est-ce que cette maladie vous protégerait contre la variole ? Alors, on avait trouvé déjà, depuis longtemps, une protection contre la variole. C'était ce qu'on appelait la variolisation. C'est-à-dire que ça consistait de la façon suivante, on prélevait sur un varioleux du pus, des petites pustules qu'il avait sur la peau, on scarifiait la peau d'un sujet sain et on lui inoculait ce pus de varioleux. C'est-à-dire qu'on lui inoculait l'agent de la variole, mais d'une manière très particulière, à très faible quantité. Et ce qu'on observait, c'était que après ça, on faisait une grosse pustule, parfois on faisait une petite éruption de boutons, on avait un peu de fièvre pendant quelques jours, puis tout se calmait.